Europe 1. h 18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bonjour à tous, bienvenue dans Historiquement vôtre, l'émission qui vous raconte l'histoire sans se la raconter, autour chaque après-midi de trois personnages très différents, mais qui avaient un point commun aujourd'hui, celui de s'être mis un jour au parfum. Et parmi les personnalités qui ont créé leur parfum, on aurait pu citer celui qui présente cette émission avec moi et qui travaille actuellement avec les meilleurs nez de Paris pour créer une fragrance à son image, chic, raffinée et enivrante. Ce parfum très attendu, Effluve de Berne, sera disponible chez Sephora, Barionneau et Saint-Maclou. Il a même déjà trouvé le slogan.
Vous allez le prendre votre pied.
J'ai hâte de m'en asperger. Bonjour Stéphane Bern.
Ah non, bonjour Mathieu, bonjour à tous. Promis, je vous mettrai un flacon de En attendant, je vous présente nos personnages du jour qui se sont vraiment mis au parfum. D'abord, Jean-Louis Farjon, ou le parcours sans fausse note de parfum de celui qui devint à la cour le parfumeur de la reine Marie-Antoinette. Puis, je vous raconte un nom toujours au sommet dans le monde des parfums, la dynastie Guerlain, et en particulier celle de Jacques. Quant à vous, Mathieu, vous évoquerez une légende du cinéma qui s'était aussi lancé dans la parfumerie.
Oui Stéphane, aujourd'hui vous l'associez à Eau Sauvage de Dior parce que les pubs sont partout, mais en 1980, Alain Delon décidait de créer son parfum à lui. Il a longtemps cherché le nom le plus vendeur et puis finalement, après des semaines d'intenses réflexions, il a opté pour Alain Delon. Il n'était pas peu fier de sa trouvaille.
Oui. Et avec nous, comme chaque jour évidemment, ils sentent bon d'abord la culture, surtout elle nous entraîne dans l'intimité des grandes de ce monde, c'est Clémentine Portier, Kaltenbach, les trompettes d'Aïda.
Oui, ben, ça me va très bien.
Ah bah, c'est ça. Madame se contente de peu. On aurait mis le petit vin blanc, c'est sûr que ça aurait été moins chic.
Ah, écoutez, bonjour messieurs, vous allez voir aujourd'hui, moi, rien à voir avec le parfum. Vous vous souvenez que je vous avais parlé de cette pratique qui s'appelait le procès, c'est-à-dire comment au cours de tribunaux, on essayait de voir si les messieurs étaient impuissants ou non. C'était une pratique plutôt humiliante pour les hommes. Eh bien aujourd'hui, je vous parle d'une pratique plutôt humiliante pour les femmes, cette fois une pratique anglaise du 18e et 19e siècle, c'était la vente d'épouses. C'est-à-dire que quand vous en aviez marre de votre femme, hop, vous la mettiez en laisse, en gros, c'est ahurissant, ouais, vous allez voir, et vous allez vous alliez la vendre au marché, exactement.
Ah non, mais ça me
tout s'est fait, tout s'est fait.
Je suis choqué. Face à vous, Clémentine, un garçon timide, d'aucuns diraient timoré, trentaine névrosée, flanqué de nombreux tocs et incapable de repasser convenablement une chemise. Il est par conséquent
toujours vierge à 35
ans. Non, toujours célibataire, mais ça viendra. Bonjour David Castello-Lopez.
Bonjour. Aujourd'hui, c'est pour la première fois, je vais faire une chronique qui va être un feuilleton. Sur deux émissions, je vais vous parler du Viandox, cette sauce.
Enfin, voilà.
Et votre parfum, non.
Voilà, exactement. Et le Viandox, le Viandox, c'est un sujet trop large pour être traité en une seule chronique. Et donc, il y aura deux chroniques sur le Viandox avec l'épisode 1 aujourd'hui.
À vos côtés, et puis, oui, Olivier Pouls. Alors, c'est une chronique gourmande et historique en même temps.
Oui, mais là, une fois encore, il vient mordre sur mes plates-bandes.
Hein, oui, mais vous allez contre-attaquer avec.
Avec le saucisson lyonnais.
Ah, vous allez l'assommer avec un saucisson lyonnais.
Et là, en matière de parfum, on est servi. Ouais. Hein, parce que quand ça cuit, c'est du Guerlain. Quoi.
Enfin, sur le coup de 5h-10, nous jouerons à ce jeu cruel qu'on appelle Burn to be Alive. Ce quiz longtemps douloureux pour Stéphane, qui en cette fin de saison reprend du poil de la bête et commence à signer quelques victoires.
Je me sens refleurir comme un vieux chardon desséché.
Le vieux chardon desséché refleurira-t-il avec le printemps? C'est tout ce qu'on lui souhaite. En attendant, partons à la découverte de notre premier personnage du jour, un illustre parfumeur. Stéphane Bern nous raconte Jean-Louis Farjon, le parfumeur de Marie-Antoinette.
Europe 1. 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Ce n'est pas un usage courant à la cour de France. Pourtant, plusieurs fois par semaine, dans ses appartements privés, Marie-Antoinette aime à se délasser dans un bain aménagé dans ses appartements privés. Comble du raffinement, l'eau chaude est parfumée par des sachets de plantes, parfumées aux amandes douces et aux racines de guimauve. L'homme responsable de ces délices, le parfumeur Jean-Louis Farjon, n'a pas vu le jour à Versailles. Il est né en 1748 à Montpellier, la capitale française du parfum, que la ville de Grasse n'a pas encore tout à fait détrônée. Depuis le Moyen-Âge, Montpellier abrite une faculté d'apothicairie renommée. On y fabrique des élixirs, des baumes et autres drogues médicinales qui font la réputation de la ville à travers l'Europe. Au XIVe siècle, un savant parfumeur y a utilisé pour la première fois de l'alcool dans la fabrication des parfums, une innovation décisive dans l'art délicat d'emprisonner les odeurs. Depuis son sud natal, Jean-Louis rêve du luxe de la cour de France. En 1770, il a un peu plus de 20 ans lorsqu'il suit avec un vif intérêt les récits de l'arrivée de Marie-Antoinette en France et de son mariage avec le dauphin, le futur Louis XVI. À 25 ans, le jeune Fargeon quitte alors sa province pour Paris, bien décidé à pénétrer ce monde qui l'attire. Pour accéder à la reine, il a un atout majeur. Il est issu d'une dynastie de grands parfumeurs. Son père est le parfumeur de Louis XV et de sa cour. Auprès de lui, Jean-Louis Fargeon apprend le métier. En 1774, après son apprentissage, il obtient son diplôme de maîtrise. Dès ses débuts dans le métier, il peut compter sur des clients de choix, à commencer par la favorite du roi, Madame du Barry. Les relations difficiles qu'entretiennent la maîtresse du roi avec la dauphine n'empêchent pas le parfumeur d'être présenté à Marie-Antoinette par l'intermédiaire d'une princesse de sa connaissance. L'artisan procure à la future reine des gants parfumés. Oui, car les parfumeurs de l'époque se chargent aussi de vendre des cuirs délicatement odorants dont le raffinement est un immense succès.
Ça n'existe plus ça, Stéphane. Non, on peut pas acheter des gants odorants.
Les parfumeurs étaient des gantiers à l'origine. La reine raffole des parfums. Son fournisseur en crée de légers pour elle, puis pour ses enfants, au lys. Alors, c'est difficile de dire que c'est léger, au lys. Hein. À la violette, à l'œillet. C'est son jardin secret, le petit Trianon, qu'il tente de capturer en ajoutant aux fleurs des notes de bois, de cèdre et de santal. Le parfumeur est passionné par son métier. Jean-Louis Fargeon travaille dur à tenter de recueillir les odeurs qui s'échappent des fleurs et des écorces pour les fixer dans des eaux spiritueuses et des essences, puis ensuite à les mélanger pour créer de nouvelles senteurs. C'est un art délicat que celui de la parfumerie, qui n'en est encore qu'à ses balbutiements et qui demande un engagement intense. Les compétences de Jean-Louis Fargeon ne se cantonnent d'ailleurs pas au parfum. Pour la reine, l'artisan crée aussi des produits de beauté, des crèmes et ces fameux sachets de plantes pour le bain. Il faut dire que Marie-Antoinette est plus propre que ses nouveaux congénères français.
Non, c'est assez facile d'être plus propre, non, à l'époque.
Oui, mais on est quand même au milieu, deuxième partie du XVIIIe siècle.
Déjà, là, on est quand même beaucoup plus propre.
Ah oui, c'est plus propre qu'au XVIIe. Voyez-vous. De son Autriche natale, elle a ramené l'habitude de se laver entièrement plusieurs fois par semaine dans l'eau chaude. Elle se frotte la peau avec des savonnettes à l'ambre et à la bergamote que lui fournit également le maître en parfum. Jean-Louis Fargeon est aussi cosmétologue, avec une vision radicalement opposée aux modes de l'époque. À la cour, les fards font fureur. On s'en tartine le visage, alors même que les produits nocifs dont ils sont composés ont des effets terribles pour la santé. Les femmes en sont parfois défigurées, à tel point qu'en Angleterre, on juge pour cela les femmes françaises dégoûtantes. Comme les médecins, le parfumeur combat ces produits nocifs. Jean-Louis Fargeon a su saisir l'air du temps, la naissance d'un goût pour le naturel et la simplicité dont les philosophes des Lumières se sont faits les défenseurs. Il crée pour Marie-Antoinette un fard sans ingrédients toxiques qui respecte la peau et pour l'enlever, des eaux florales suivies de crème de nuit à base de miel. Les noms sont soigneusement choisis et évoquent toute la délicatesse du produit. Eau des charmes pour tonifier, eau d'ange pour purifier. Après la naissance de son fils, la souveraine commande même des soins anti-rides. Rien n'est laissé au hasard. La peau de ses mains est adoucie par des crèmes à l'amande ou à la vanille. Ses dents soignées par des poudres et des opiats auxquels il faut encore ajouter des pommades au citron et au concombre.
Mais est-ce qu'on se brosse les dents? Parce que mettre des pommades sur les dents, c'est une chose, mais est-ce qu'il
y avait déjà des brosses à dents?
Encore,
on ne brossait
pas encore.
On se les frottait, mais on les brossait pas. Jean-Louis Fargeon collabore même avec Rose Bertin, vous savez, qui est la modiste de la reine. Ensemble, ils créent des fleurs de gaze, un tissu léger de soie ou de coton délicatement parfumé, qui imite les vrais, mais ne fanent pas. Profitant de son statut à la cour, où il fournit également monsieur, frère du roi, et mesdames, tantes, les filles de Louis XV, l'habile homme d'affaires développe son commerce en France et jusqu'en Angleterre. En 1786, il est à la tête d'une manufacture installée à Suresnes. Le parfumeur, toujours à la recherche de nouveaux procédés, capable de perfectionner son savoir-faire, a une vision moderne de son art. Il affine des techniques de distillation, mettant ainsi au point des huiles essentielles très concentrées qu'il surnomme « esprits ardents » et que la reine rebaptise vite « esprits persans ». Rien ne semble pouvoir freiner l'irrésistible ascension du parfumeur de la reine. Rien. sauf peut-être la Révolution. En 1789, c'est tout ce petit monde du luxe le plus extrême qui s'effondre et ceux qui gravitent ne sont plus en odeur de sainteté. Par sa proximité avec la reine, qui, je le rappelle, est condamnée à mort et exécutée le 16 octobre 1793.
Ça vous fait toujours mal, hein, toutes ces années après, j'ai l'impression que ça,
oui,
ça a du mal à passer.
Ça a du mal à passer, oui. Comme vous dites. Enfin, cela dit, de toute façon, maintenant, elle serait morte. Jean-Louis Fargeon est emprisonné pendant 6 mois. Au terme d'un long procès, il est finalement libéré le jour de la chute de Robespierre en juillet 1794. Le parfumeur a réussi l'exploit peu commun d'échapper à la guillotine en pleine terreur. Il faut dire que Jean-Louis Fargeon manifeste des convictions républicaines, même s'il est resté fidèle à la famille royale, continuant de livrer la reine du temps de son emprisonnement à la prison du Temple.
Il va falloir nous expliquer comment il a fait quand même pour s'afficher comme républicain, sachant
qu'il
mettait des petits sachets dans le bain de la reine.
Il avait les chines souples, vous savez.
Les chines souples, dans ces temps troubles,
en
c'était utile.
Il fallait savoir, si vous voulez, ménager la chèvre et le chou. Sous le directoire, profitant d'une accalmie après les temps plus troublés de la Révolution, les affaires reprennent. Les incroyables et les merveilleuses, jeunes extravagants en quête de légèreté, se parfument généreusement. En 1801, Jean-Louis Fargeon signe un traité de parfumerie dans lequel il livre les secrets de son art, celui de transformer l'âme humaine, ses émotions et sentiments en odeurs. Parmi les arts, écrit Fargeon, il n'en est aucun qui produise de plus voluptueuses sensations que celui du parfumeur. Le manuscrit contenant, je cite, « plusieurs secrets nouveaux pour embellir et conserver le teint des dames, effacer les taches et les rides du visage, détaille les recettes du parfumeur inspirées de la nature. Des parfums, mais aussi des cosmétiques, des pommades, des pastilles et des essences qui montrent que les préoccupations en matière de beauté n'ont pas beaucoup changé en plus de 200 ans. » Fort de son savoir-faire exceptionnel, Jean-Louis Fargeon reprend son commerce avec la nouvelle élite, celle de l'Empire. En 1806, il devient le fournisseur officiel de l'impératrice Joséphine, autre grande amatrice de parfums et de cosmétiques dont la toilette quotidienne durait 3 heures. Mais la prison a affaibli le célèbre artisan. Il meurt la même année à 58 ans, dans son appartement de la rue du Roule à Paris. Ses deux fils reprennent la maison familiale avant de se séparer pour mener leur affaire, chacun de leur côté. L'un d'eux, Auguste Frédéric Fargeon, devient même, à son tour sous la Restauration, le parfumeur du roi et de la duchesse de Berry.
Des républicains de cœur, comme on peut le voir, Stéphane, oui. De génération enfin, en génération.
Vous savez, quand vous êtes fournisseur de oui, la cour, les affaires n'ont pas d'odeur. Un savoir-faire qui se répand finalement comme une traînée de poudre parfumée, forcément.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer à parler de Jean-Louis Fargeon, nous avons le plaisir d'accueillir l'historienne et experte en parfum, Elisabeth de Feydeau. Bonjour Elisabeth.
Bonjour.
Oui, Elisabeth de Feydeau, vous publiez le dictionnaire amoureux du parfum chez Plon, dans lequel on retrouve évidemment à la lettre F Jean-Louis Fargeon, à qui vous avez également consacré déjà un ouvrage entier, Jean-Louis Fargeon, parfumeur de Marie-Antoinette, paru chez Perrin.
Et je signale Stéphane juste à nos auditeurs que normalement je monte sur Europe1.fr le livre. Là j'ai l'autre livre de notre invité, je n'ai pas le dictionnaire pour une raison simple, c'est qu'on nous l'a volé dans la rédaction. C'est preuve que c'est un bon livre. Bon, il était effectivement sur le bureau du rédacteur en chef et quelqu'un l'a subtilisé, d'où la qualité de ce livre qu'on peut imaginer.
Voilà. Mais oui, bien sûr.
Je ne l'ai pas apporté non plus avec moi.
Donc, non, mais ce livre fait envie, évidemment. Donc, mais c'est bien d'être convoité. Alors, si ce parfumeur de Montpellier a réalisé ce rêve fou, comme vous le qualifiez, de devenir le parfumeur de la reine, c'est parce qu'il est issu aussi d'une grande dynastie de parfumeurs. Ça l'a aidé, mais pas seulement, évidemment.
Non, pas seulement parce qu'il était issu d'une dynastie de Montpellier, surtout d'apothicaire. Hein, puisque le métier de parfumeur se revendique quand même de cette racine médicale de l'apothicairerie. Et c'est une famille provinciale. Donc il va jouer d'alliances familiales, etc. pour arriver peu à peu jusqu'à la cour. Mais c'est difficile, hein, c'est pas un chemin aisé quand
non,
même.
Non, c'est un chemin semé d'embûches, évidemment.
Exactement.
Voilà. Il y a une autre chose qui a fait le talent de Jean-Louis Fargeon, c'est qu'il a suivi ce siècle des Lumières, en fait. On est dans Rousseau, finalement, la nature est belle. Et il va chercher, justement, il va faire du Petit Trianon, notamment son laboratoire olfactif. Alors, quelle senteur travaille-t-il? Quelle fleur? Imaginons-le comme vous le faites dans l'Arcadie de la Reine.
Alors, évidemment, il va aller vers les roses, puisqu'on sait que la reine a cet amour pour les fleurs en général, mais aussi, bien sûr, pour la rose. On retrouve la rose présente dans de nombreux portraits de la reine Marie-Antoinette. Mais aussi, il va s'attacher à travailler notamment d'autres fleurs plus difficiles, comme le jasmin, comme également la violette. Alors là, c'est très étonnant, parce que quand on est historien du parfum, on sait que l'odeur véritablement de la violette, elle nous a été apportée par la chimie. Donc, on se demande comment un parfumeur au XVIIIe siècle peut reconstituer une violette. Et aussi le muguet. Le muguet qui est une autre fleur muette et que la reine aimait beaucoup. Elle en avait planté, il y avait des...
Qu'est-ce que vous appelez, pardon, une fleur muette ?
Une fleur muette, c'est une fleur qui sent délicieusement bon dans la nature, mais qui ne va jamais livrer son flagme olfactif. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas la capturer. Ni par l'enfleurage, qui est une technique beaucoup plus douce que la distillation, ni bien sûr par la distillation. Donc, c'est là où le parfumeur devient un démiurge, si vous voulez, un alchimiste, puisqu'il va reconstituer à partir d'autres essences de fleurs et d'autres essences, même des bois, etc. Il va reconstituer une senteur. Et d'ailleurs, ce qui est incroyable, c'est que Jean-Louis Farjon l'écrit dans son traité. La nature, si belle soit-elle, ne peut nous donner que ce qu'elle a. C'est dans la chimie que viendront les plus grands progrès de la parfumerie. Un siècle en avance.
Il était parfumeur, ça c'est clair, mais pas que. On l'a vu, donc il était cosmétologue. Oui. On a appris qu'il concoctait des antirides, des fleurs de gaz. C'était vraiment un visionnaire, hein. C'était un chimiste en fait.
Tout à fait, et là aussi, il va être visionnaire parce que vous savez que le phare, c'était extrêmement dangereux pour la santé.
Ça faisait quoi ?
C'était des oxydes métalliques. Voilà, ça détruisait la peau et ça allait même jusqu'aux os. Donc il y avait les os du visage, les os de la mâchoire qui pouvaient être complètement abîmés par ces phares qui étaient très très toxiques, au point d'ailleurs que le Parlement, il y avait un édit du Parlement anglais qui avait dit que les femmes ne devaient plus utiliser ces phares et même certains parfums, et que si un homme avait été conduit au mariage par une femme qui en avait abusé, il pouvait demander l'annulation du mariage. C'était assez commode.
Il y avait la céruse, on utilisait la céruse, voilà. Qui en fait était un poison mortel.
Bien sûr, c'était il y avait de l'arsenic, hein, il y avait du plomb, il y avait énormément de...
Elles mouraient, mais elles étaient belles.
Oui.
Elles étaient belles pour l'enterrement.
Si on veut. Alors que lui, au contraire, Jean-Louis Farjon va s'attacher à transformer tous ces oxydes métalliques, à les remplacer plus exactement, par des matières naturelles.
Un précurseur du bio. Oui.
Absolument, un précurseur
et
du bio.
Et de l'antiride déjà, tu vois. Oui. On luttait contre les rides.
Oui, la reine avait demandé, après la naissance du second dauphin, de lui préparer des crèmes antirides. C'est assez amusant
c'est
tout de même.
C'est les premières crèmes antirides de l'histoire, c'est daté ça
Non, parce qu'on sait que Cléopâtre utilisait déjà, notamment la rose. Vous savez, la rose est excellente pour la peau.
Vous avez vu le défilé des momies, là, il y a quelques semaines.
Oui, oui.
Regardez, elles étaient parfaites, elles avaient des crèmes
bien
antirides.
Réservé.
Alors, Elisabeth, on a l'impression que Farjon épousait parfaitement le côté avant-gardiste de la reine. Est-ce qu'on peut dire qu'il a accompagné, peut-être avec elle, une révolution à la parfumerie ?
Oui, il partageait les mêmes, les mêmes envies de liberté, de naturel. On voit très bien, la reine Marie-Antoinette, c'est au petit Trianon, c'est ce qu'elle va chercher. C'est vraiment se libérer de l'étiquette qui est extrêmement sévère et stricte à la cour de Versailles. Et Farjon, qui est un homme des Lumières, il le revendique. C'est un ami de tous les penseurs, les savants aussi, notamment les chimistes de son époque. Il adopte les théories de Rousseau. Quand Rousseau déclare « l'olfaction est le sens de l'imagination, le nez est la porte de l'âme », évidemment, ça ne peut que lui faire plaisir. Et il est dans cette quête de la liberté et du naturel. Et en cela, il va accompagner la reine, notamment quand elle décide de ne plus porter la perruque.
Mais ça devait être très étonnant pour l'époque, non ?
Très, c'est presque un acte philosophique, si vous voulez. C'est politique. Quand Rousseau, justement, entre dans les salons sans perruque, c'est une façon de s'élever contre la codification sociale de la société.
Mais la reine Marie-Antoinette, on ne le dit pas, mais a été assez révolutionnaire dans sa manière d'être, par exemple. Lorsqu'elle est dans cette robe en chapeau de paille, par exemple, où elle se fait portraiturer par Madame Vigée-Lebrun dans une robe toute légère en coton.
Ça fait scandale.
Ça fait scandale, parce que la reine ne se présente pas comme ça.
La société était codifiée et le vêtement, tout comme le phare. Le phare, par exemple, vous aviez le rouge de la bourgeoise et le rouge de l'aristocrate.
Ah, on n'avait pas le droit de mettre le rouge de l'aristocrate
pas
quand
du tout.
On était bourgeoise.
Non, absolument pas. Il y avait un certain nombre de règles comme ça qu'il fallait suivre. Et la reine va complètement brouiller les pistes, puisque elle n'a pas du tout été éduquée comme ça à Schönbrunn. Et en cela, évidemment, Jean-Louis Fargeon est tout à fait d'accord. D'une part, parce qu'il est républicain, donc il est assez opposé à cet ordre social et cette hiérarchie très
mais
stricte.
Alors, comment vous expliquez, voilà, pardon, mais comment vous expliquez cette contradiction qui, tout à l'heure, d'ailleurs, a interpellé Mathieu.
Il est républicain de cœur, mais
toute sa vie, il cherche à aller à la cour.
Ouais. Eh ben parce que c'est là où il y a les sous, et c'est là où il y a les commandes.
Comme
alors,
vous, Stéphane,
cela dit, il est assez
moi,
malin.
Moi, je voulais travailler avec vous, c'est pour ça.
Oui, c'est ça.
Cela dit, il est malin parce que les grands ne payent pas leurs dettes quand même, vous voyez, comme quoi, ça a toujours été comme ça. Et donc, en 1778, il fait faillite. Il fait une faillite retentissante. Et alors, du coup, il se dit que finalement, comme il va à la cour, il a accès à la cour, il va pouvoir raconter aux bourgeois, il y a une haute bourgeoisie qui commence à se constituer au XVIIIe siècle, notamment par les fermiers généraux, mais aussi les gens de la banque, les premiers banquiers qui constituent cette haute bourgeoisie, qui a envie d'adopter le luxe de la cour de Versailles, mais qui ils sont exclus de cette cour, parce que le sang ne leur permet pas donc d'y figurer. Et alors, Fargeon va faire la gazette. C'est-à-dire que Fargeon va leur dire « je vais vous vendre le même parfum que la duchesse machin chose ou la princesse truc bidule ». Et grâce à ça, il devient très riche.
Mais ça existait déjà, le titre de fournisseur breveté ou de fournisseur officiel?
Oui, fournisseur de la reine. C'était son titre, fournisseur de la reine. Ou fournisseur de monseigneur, etc. Ou fournisseur du duc, machin chose, etc. Oui, c'était un titre.
C'est le by appointment qui existe toujours à la cour d'Angleterre.
Exactement. Et c'était très, très important parce que c'était aussi le laisser-passer pour d'autres cours.
Mais on sent que Jean-Louis Fargeon, ce qui fait qu'il reste dans l'histoire, c'est que c'est pas seulement un cosmétologue, c'est pas seulement un parfumeur, c'est un visionnaire. Il a écrit l'histoire du parfum, enfin il avait une vision du parfum.
Il a une vision du parfum et c'est là où c'est intéressant. En effet, vous l'avez dit Stéphane, c'est un héritier d'une longue dynastie et son livre en 1801, son traité de parfumerie, bon c'est pas du tout une œuvre philanthropique, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont besoin aussi de récupérer des sous et donc c'est une façon de vendre ses recettes. Mais ce qui est très intéressant dans ce traité, c'est qu'on a presque deux siècles d'histoire de la parfumerie par les recettes qu'il livre. C'est-à-dire à la fois les recettes de ses ancêtres, qui sont consignées dans son traité, mais aussi toutes les recettes que lui a améliorées, où il note qu'il a apporté tel progrès de la science à telle recette, etc. Et c'est ça qui est passionnant, et en cela, effectivement, il nous retrace l'histoire du parfum sur plusieurs siècles.
Quand on n'y connaît rien à la parfumerie, on a l'impression que les techniques qu'il utilise sont toujours les mêmes qu'aujourd'hui. On ne voit pas trop, pas l'impression qu'il y a eu de révolution depuis dans la parfumerie, en tout cas dans la manière de préparer un parfum. C'est le cas, en fait, il y a eu beaucoup de progrès depuis Fargeon. On ne travaille plus du tout comme lui aujourd'hui.
Vous avez assez raison, Mathieu. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de changements et beaucoup de transformations. Et heureusement, si vous voulez, nos techniques se sont affinées. On a eu aussi cet immense apport de la chimie organique à la parfumerie, donc avec ces notes de synthèse qui nous permettent de tout reconstituer et surtout qui ont apporté aussi de la stabilité, de la rémanence également à un parfum, ce qui faisait un peu défaut à l'époque de Jean-Louis Fargeon. Mais effectivement, on utilise toujours la distillation, on utilise toujours l'enfleurage qui a été mis au point au XVIIIe siècle. La palette du naturel, à part les notes exotiques, sont quasiment la même. Et on s'était rendu compte de ça avec le parfumeur Francis Curgeon quand on a refait le parfum de Marie-Antoinette.
Oui.
On s'était rendu compte que finalement, on avait toutes les matières premières pour le faire. On avait absolument la technique. Et la différence, c'est que je dirais aujourd'hui que nos matières premières naturelles sont beaucoup plus fines, beaucoup plus belles, beaucoup plus pures que celles de l'époque de Jean-Louis Fargeon.
Pourquoi ?
Parce qu'on sait, si vous voulez, c'est quand même les progrès de la technique qui viennent au service de l'art. À l'époque de Jean-Louis Fargeon, il y avait encore ce qu'on appelait des notes parasites, vous voyez, sur les sens, alors que là, nous, on arrive à une pureté absolue.
J'ai un dernier mot sur ce sujet. À Versailles, il y a le musée du parfum.
Oui.
Et qui est l'un des endroits les plus extraordinaires avec des vieux flacons. Est-ce que c'est lié justement à Jean-Louis Fargeon et à Marie-Antoinette ou c'est le pur hasard?
Alors en fait, c'est lié surtout à l'ISIPCA, qui est l'école des parfumeurs, qui était à Versailles depuis 1974 et qui, effectivement, et peut-être, c'est peut-être installé à Versailles parce que Versailles est une ville de parfums également, puisque la cour de Versailles, et notamment Colbert, avait institué les métiers du luxe et avait notamment détecté en la parfumerie une industrie d'art, donc un commerce florissant. Et puis Louis XIV avait demandé que l'on se produise à la cour avec un parfum.
Pour éviter les mauvaises
odeurs. Pour éviter les mauvaises odeurs, voilà. Et la cour de Louis XV était appelée la cour parfumée.
Oui, on devrait exiger ça dans les locaux d'Europe 1 aussi. Oui. En tout cas, merci Elisabeth de Feydeau. Je rappelle évidemment, aujourd'hui, on célèbre dans, historiquement votre dictionnaire amoureux du parfum. On vous retrouve tout à l'heure pour évoquer avec vous un autre grand parfumeur, Jacques Guerlain, à qui vous avez consacré un livre. Tout se tourne autour
celui-là,
de vous aujourd'hui.
Oui.
Ici Europe 1. 16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Tous les jours des 16h, Historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qu'il aurait fallu voir pour le croire. Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, incroyable mais vrai, vous nous racontez cette époque où, faute de divorcer, on pouvait vendre sa femme le marché.
Et oui. Ce qui est vrai, c'était beaucoup mieux, c'est une solution alternative intelligente.
J'espère que mon mari n'écoute pas cette chronique du jour.
Pourquoi il a envie de vous vendre?
Il serait tenté, parce qu'à mon avis, il en obtiendrait une bonne somme. Bon, écoutez, en tout cas, pourquoi cette pratique étonnante? Oui. C'est parce qu'en Angleterre, à la fin du 17e, pour divorcer, il faut faire une requête au Parlement. C'est très long, c'est très cher. Et donc, seuls les riches peuvent demander le divorce en étant à peu près certains de l'obtenir. Les plus modestes n'ont pas les moyens de divorcer. Et pour contourner la loi, cette incroyable pratique commence à se développer, la vente d'épouses. La première dont on est trace a lieu à Birmingham en 1733. C'est un journal local qui relate que Samuel Whitehouse a vendu sa femme Mary sur le marché à un certain Thomas Griffiths contre la somme d'une livre sterling.
Alors, en plus, c'était pas cher.
C'était pas négligeable, mais ça pouvait aller de quelques shillings, quelques livres jusqu'à 25 livres sterling, et ça, c'est le prix d'un cheval. Je vais vous donner tous les détails. Alors, comment cela se passe-t-il? La femme est donc publiquement exhibée par son mari, elle a souvent soit un collier au cou, à la taille ou au bras, ou même une longe.
Elle était d'accord ou pas?
Comme une vache ou un cheval, et oui, c'est ça qui est intéressant. Ah. Alors le mari, à Pâques, le chaland bien sûr, venez messieurs, approchez, regardez ma belle épouse, elle n'a pas beaucoup servi, elle m'a donné 5 beaux enfants, je vous la solde. Bon, il fait de la retape pour son produit, parce qu'il faut faire monter les enchères. Il y a eu notamment une vente aux enchères, comme ça en 1801, absolument frénétique entre des agriculteurs misérables, c'est-à-dire qui quasiment montait les enchères d'un centime par un centime. Et finalement, la dame a été vendue quelques shillings, rien du tout. Mais les enchères étaient... Parce qu'évidemment, c'est un spectacle très dégradant, mais qui attire les foules. Il y a des remarques graveleuses, où on dit « ta rombière, elle est trop grosse, je n'en veux pas bon, ».
Ça dépend si c'est vendu au kilo.
C'est possible aussi. Alors la pratique va atteindre son apogée entre 1780 et 1850. On a quand même la trace de près de 400 femmes.
Ça paraît incroyable qu'on devait laisser faire ça.
Oui, mais si, écoutez. Alors, parce que pourquoi, Stéphane? Parce que dans l'Angleterre victorienne, la femme est considérée comme la propriété du mari. Elle est un bien comme un autre. Elle ne possède rien en propre. En cas de mariage, tous ses biens deviennent la propriété de son mari. Et même en cas de divorce et en cas de séparation du couple, la garde des enfants est automatiquement confiée au père, qui peut interdire tout contact entre femme et enfant.
C'est horrible.
Si vous avez vu le film de Duchesse, c'est ça. Parce qu'il y a le statut juridique de la femme en droit anglais est appelé coverture. C'est-à-dire que le statut juridique de l'épouse est englobé, couvert intégralement par celui de son mari. Donc, bien sûr, il peut en disposer comme un bien. Mais attention, alors vous aviez raison, vous suggériez que peut-être la femme donnait son avis. Oui, la femme doit donner son accord pour sa propre vente. On a des exemples de vente. Une vente en 1824 où la femme n'était pas contente de son acheteur. Elle a trouvé un nouveau preneur. Vous voyez, en fait, c'est une sorte d'astuce pour mettre fin à un mariage dont on n'est pas satisfait. Si vous trompez votre mari, vous avez un amant, votre mari veut se débarrasser de vous, il vous vend, mais il peut vous vendre à votre amant de préférence.
Mais on ne comprend pas pourquoi il y a la notion de... Pourquoi on monétise tout
parce
ça
que,
ça pourrait
que,
se faire par arrangement
ça donne,
entre personnes.
Parce que Mathieu, ça donne un statut quasiment légal, officiel au concubinage. On ne veut pas d'un vulgaire concubinage. Et en plus, le problème, c'est qu'au regard de la loi et de l'Église, vous restez la l'épouse de votre premier mari. Hein. Alors, bon, il y a eu des ventes de mari, mais on a trouvé la trace de 5 ou 6 ventes de mari tout au plus. Et alors, surtout, et j'en termine, il y a eu une vente extrêmement célèbre. Un jour, le jeune et riche Henry Bridge, second duc de Chandos, assiste par hasard à une vente d'épouse. La jeune personne mise en vente, Anne Wells, est servante dans une auberge. Son mari la bat. Elle est toute contusionnée, bouche fendue. Il l'a fait monter sur une table au bout d'une longe pour bien l'humilier. Il l'a fait parader parce que c'est aussi pour un mari qui a été trompé et qui se débarrasse de sa femme, une façon de se venger d'elle. Le duc l'achète pour une demi-couronne, la prend sous sa protection, lui fait donner une éducation, en fait sa maîtresse, car elle est très belle. Et à la mort du mari violent, eh ben, le duc de Chandos épouse Anne Wells, faisant d'elle la duchesse de Chandos. Alors finalement, vous voyez, cette pratique qui a été utilisée près de 200 ans a été abandonnée comme étant répugnante et honteuse. Mais le dernier cas de vente d'épouse est celui d'une habitante de Leeds, vendue à un ami de son mari pour la modique somme d'une livre sterling. Et c'était en quelle année, à votre avis, messieurs? La dernière vente d'épouse
1820
1913.
Oh, non.
Et ouais.
Vous étiez presque né, Stéphane.
Oh non.
1913, dernière vente d'épouse en Angleterre.
Eh ben, incroyable.
Voilà, ce pays que vous aimez tant, Stéphane. Les Anglais sont civilisés, voilà. Pas du tout.
Voilà. Merci beaucoup, Clémentine. Ça fait froid dans le dos.
Mais pour se détendre un peu, dans le quiz qui arrive, je vous emmène au musée du phallus. C'est en Islande, vous allez voir. C'est très sympathique.
16h-18h sur Europe 1. Historiquement vôtre.
À l'heure d'ouvrir la séquence du quiz, c'est une historienne lessivée qui se présente au micro d'Europe 1 pour affronter Stéphane Bern. Une historienne respectable et réputée qui n'aurait jamais pu s'imaginer qu'elle se retrouverait un jour à dire à l'antenne d'une radio nationale:
moi je pense que Jeanne Mas a chanté toute première fois avant les premiers codes-barres.
La vie, comme le quiz, réserve bien des surprises. Jouons ensemble à Bern to be alive. Stéphane, la première question de ce quiz éminemment historique est toujours pour vous. S'il manque plein de colonnes au Parthénon, à l'Acropole d'Athènes, ce fut à cause d'un tir de mortier. Vrai ou faux?
Il y a eu un tir de mortier, absolument. Oui.
C'est pas plutôt une explosion de l'artillerie qui était stockée dans le Parthénon?
Alors attends, est-ce que c'est les colonnes ou est-ce que c'est le fronton? Il y a peut-être un piège là.
Attendez de moi que je vous donne un indice.
Oui, il y a un piège.
D'entrée, comme ça. D'entrée de quiz, vous espérez que je vous aide.
Parce que je vais partir bien en tête. Je sais qu'il y a eu
des tirs. Vous êtes seul avec votre culture générale. Autant dire que vous n'êtes pas en surnombre.
Mais si, mais les Turcs ont assiégé, ont tiré sur l'Acropole, me semble-t-il.
Il y a eu un tir de mortier, oui.
Vous répondez?
Oui.
Vous avez gagné.
Stéphane Bern prend la main dans ce quiz. En 1687, c'est vrai, c'est la guerre de Morée. La République de Venise est en guerre contre l'Empire ottoman. Les Vénitiens attaquent Athènes. Un tir de mortier fait que le toit s'effondre ainsi que 21 colonnes. Voilà, c'est pas les Turcs. Ouais. Beaucoup de débris de pierre serviront à construire des maisons aux alentours et de nombreux voyageurs occidentaux vont aussi se servir en guise de petits souvenirs.
Voilà.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Je m'adresse là maintenant à celle qui a écrit Les Secrets de Paris et qui a rédigé Les questions sur Paris du Trivial Pursuit. À Paris, il y a un musée du vin et il est situé rue des Eaux. Vrai ou faux?
Je crois que c'est vrai, oui.
C'est vrai.
Vous avez gagné.
J'attire l'attention sur le concepteur du quiz, sur le fait que poser une question à Clémentine qui a écrit Le Trivial Pursuit sur Paris sur une question aussi facile que dont même moi connais la réponse, qui n'est pas peu dire, c'est un peu idiot. Vrai, bonne réponse.
Surtout que quand on vient ici dans les studios d'Europe 1, pour peu qu'on prenne le trajet en face de la Seine, eh bien, on passe devant.
C'est vrai?
Oui, et c'est vrai que c'est marqué Musée du vin, rue des Eaux.
On ne peut pas l'oublier.
On ne peut pas y échapper.
Donc, c'est vrai, c'est la rue des Eaux, car jusqu'en 1785, il y avait des sources d'eau minérale. C'est dans le 16e arrondissement de Paris, vous venez de le dire, Stéphane, quelque part, puisque c'est en face d'Europe 1. Le musée est dans d'anciennes carrières du Moyen-Âge. C'était l'ancien cellier du couvent des Minimes. On y faisait un vin très apprécié du roi Louis XIII, qui était fait grâce aux récoltes des coteaux de la Seine. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Alors, attention, parce que là vraiment, c'est niveau agrègue d'histoire. En 1962, on a utilisé pour la première fois des balais qui volaient. C'était en Suède, au Xe siècle, que naît le Quidditch, un sport que l'on doit à J.K. Rowling, la maman d'Harry Potter. Vous l'avez compris, un sport imaginaire. Mais en 2010, la célèbre compagnie Mattel sort un jouet balai en partenariat avec Harry Potter. Ils ont dû retirer ce jouet du marché car ses fortes vibrations ont donné des idées à certains sex shops. Vrai ou faux, Stéphane? Là, vous êtes dans la grecque d'histoire, vous êtes dans la salle, la pariteur est là. Vous ne pouvez pas copier sur votre voisin, c'est votre carrière universitaire qui se joue. Je vous demande de répondre à cette question.
J'espère pour eux qu'on ne pose pas ce genre de questions.
Trépidation
mais,
de
écoutez,
la machine.
Ça m'émoustille votre question et donc je suis tenté de dire oui.
Vous avez gagné.
Eh bien oui, vous avez l'émoustillation payante Stéphane, c'est vrai. Le Nimbus 2000 Harry Potter vaut aujourd'hui plus de 350 euros. Il n'est plus fabriqué parce qu'à sa sortie, Mattel s'est rendu compte que beaucoup de sex shops le revendaient deux fois plus cher. Et qu'au niveau de l'image, ben, c'était pas top. Quoi.
Top, oui.
Ah, et donc ça, c'est une belle idée de cadeau de Noël. Question numéro 4 pour vous Clémentine. Tintin est né en 1929. C'est la sortie de Tintin au pays des soviets. On connaît Milou, son fidèle fox terrier, mais ce qu'on sait moins, c'est que Tintin habite à Bruxelles, rue du Labrador. Vrai ou faux ?
Je ne suis pas tintinophile au point de connaître ce genre de détails. Il habiterait à Bruxelles, rue du Labrador. Écoutez, je vais répondre oui parce que je n'en ai aucune idée. Je l'ignore.
Vous connaissez la réponse à cette question, Stéphane ?
J'aurais tenté de dire oui, mais je peux me tromper.
Vous avez lu Tintin ?
Oui, je suis tintinophile.
Tintinophile, effectivement.
J'ai tous les Tintins.
Vous avez
y compris votre préféré, Tintin au Congo.
Non,
oui, c'est votre préféré,
c'est les bijoux
Stéphane.
De la Castafiore.
Ah, c'est bien, c'est bonne réponse, Stéphane. Bonne réponse également de Clémentine. C'est vrai, l'adresse est mentionnée pour la première fois dans l'album L'oreille cassée et la dernière fois dans l'album Au pays de l'or noir. Graphiquement, les fans ont cru reconnaître à Bruxelles plutôt la rue Terre-Neuve, encore un nom de chien. La grand-mère d'Hergé habitait au 26 de cette rue, dans le centre de Bruxelles.
Mais dites-moi une chose, Mathieu Noël, dites un peu aux auditeurs. Vous comprenez les questions que
non,
vous lisez ?
Non, parfois non. C'est souvent les réponses, les détails des réponses, oui. je ne les comprends
pas.
Parce
qu'on a même un extrait qui prouve que, en fait, vous ne comprenez pas toujours les questions que vous posez. On a la preuve, on écoute.
Et apparemment, Romain Gary avait, avec David Bowie, dont on va parler dans la deuxième partie de l'émission, un autre point commun que celui de s'être créé plusieurs personnages. Vous pouvez nous parler de ce point commun ? Pardon, j'avais pas compris la question que je devais poser en fait.
Je vous en prie, vous dévoilez les coulisses de l'émission, Stéphane. C'est une pratique assez ignoble.
Oh oui, que vous n'utilisez jamais.
Non, jamais. Moi, non. Moi, j'ai une éthique, monsieur. Oui. C'est ça la différence. Égalité, me signale-t-on en régie. Égalité, nous allons pouvoir poser la question.
Dans la victoire, parce que parfois,
oui, c'est vrai.
C'est dans l'égalité, dans la lose.
Là, oui. Vous êtes bien, vous avez tout gagné. C'est le 17 juin 1944 que naît officiellement la République d'Islande. L'Islande, ses geysers, ses sources chaudes, ses volcans. Je m'arrête là, je commence à être excité. Depuis 1997, il y a en Islande le musée du phallus. Un musée qui propose de découvrir tous les phallus de toute la faune islandaise. En 2011, une nouvelle pièce vient enrichir la collection. Quel est ce phallus ? Trois propositions, attention. Un phallus de cachalot, un phallus humain, un phallus de phoque.
Un
cachalot.
Deux.
Un phallus humain. Clémentine Portier-Caldelbach en rêvait. Le musée du phallus l'a fait, Stéphane. Un phallus humain.
Bah oui.
Et il était attendu depuis 15 ans.
Cachalots et phoques, ils en ont déflatté.
Ils en avaient déjà,
ils ont,
évidemment.
À mon avis, plus de cachalots que d'hommes en Islande. C'est une terre relativement
peu. Vous trouvez pas ça scandaleux
de... Il voulait avoir tous les phallus représentatifs de l'espèce humaine et animale. Il était attendu depuis 15 ans, ce phallus. C'est
et
celui de Pál Harrason, un de vos amis, un Islandais décédé de 95 ans, ravi de donner une postérité à son phallus, une postérité dans le formol, mais une postérité quand même. C'est une belle victoire de Clémentine Portier-Caldelbach.
Ah oui, ça, là, c'est...
Un des quiz. Oui, vous aurez
je
gagné.
Je suis fier de moi, oui.
Vous aurez gagné avec le phallus islandais, vous pourrez le mettre sur votre CV. Bravo.
16h-18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Vous écoutez Historiquement vôtre, l'émission qui chaque après-midi vous raconte l'histoire sans se la raconter. Autour de trois personnages qui ne se connaissent pas, qui n'auraient jamais pu se croiser, mais qui avaient un point commun. Aujourd'hui, Mathieu, trois hommes qui se sont mis au parfum. Après Jean-Louis Fargeon, le parfumeur de Marie-Antoinette, je vous raconte l'histoire d'un des plus grands noms de la parfumerie moderne, Jacques Guerlain. Et puis, Mathieu, il n'est pas parfumeur, celui dont nous allons parler, parfumeur de métier, mais il s'est quand même lancé dans la parfumerie.
Certes, Alain Delon n'est pas parfumeur de métier, comme vous dites, mais ça n'a aucune importance car Alain Delon sait tout faire. D'ailleurs, Alain Delon n'apprend jamais à faire quelque chose, c'est cette chose qui, par respect pour l'immense acteur qu'il est, apprend à être faite par Alain Delon. L'occasion de revenir sur l'histoire d'une gamme de parfums sobrement baptisée AD,
mais qui aurait pu s'appeler BG.
Eux aussi, Mathieu, ce sont de sacrés beaux gosses.
Qui conjuguent en plus beauté physique et talent journalistique, à commencer par celui que vous présentez, Stéphane, sans jamais le survendre.
C'est un peu le pendant journalistique de Victor Hugo.
Voilà.
David Castel-Lopez.
Tout à fait, tout à fait.
Qui nous raconte les origines, alors les origines d'une sauce. Une chronique qui va faire trembler.
Pourquoi dans votre bouche le mot sauce est sale?
Parce qu'il a allongé le haut.
Sauce. Voilà. Sauce. Allez, envoyez la sauce. Une chronique qui va faire trembler l'industrie agroalimentaire cet après-midi.
Ah oui, tout à fait. C'est les origines du Viandox, hein, cette sauce qu'on peut utiliser pour agrémenter ses viandes, ses pâtes, etc. Mais aussi comme boisson. On en parlera. Et pour la première fois de l'année, je vais faire une chronique en deux épisodes, puisqu'il y a trop à dire sur le Viandox pour tenir dans 5 minutes.
Et je pourrais témoigner, parce que moi, j'ai subi un viol buccal à
tout
base
à fait,
de Viandox.
On parlera
de
votre
viol. J'avais demandé un café et vous m'avez apporté un Viandox. À mon côté, Olivier Pouls est choqué parce qu'il vient d'entendre.
Si on appelle ça une sauce, franchement.
Voilà, pour lui, c'était même pas une sauce.
Vous n'avez aucun respect pour la grande cuisine. Permettez-moi de vous le dire quand même.
Oui, et vous, en revanche, vous avez beaucoup de respect pour la grande cuisine et son histoire. Vous nous racontez aujourd'hui l'histoire du saucisson brioche.
Humez ce parfum qui va bientôt envahir le studio. Celui d'un délicieux saucisson brioché spécialité lyonnaise.
Lyonnaise, exactement.
Eh oui, et puis je donnerai une recette pour les faire chez vous, vos saucissons briochés.
Très bonne idée. À mes côtés, mon cher Stéphane Bern, vous aurez le mot de la fin, comme chaque jour, l'histoire d'une expression aujourd'hui.
Bah, vous savez, ça vous arrive quand même l'après-midi quand vous n'avez pas fait votre sieste. Vous êtes un peu dans le coltard.
Ça m'arrive rarement.
D'où ça vient cette expression, être dans le coltard?
Je vais vous faire une confidence. Je ne sais même pas comment ça s'écrit. Et beaucoup de choses à apprendre en fin d'émission. Restez avec nous. Tout de suite, découvrons l'histoire d'un des plus grands noms de la parfumerie. Le temps que Stéphane se pchite un peu sous les aisselles, il nous raconte le destin de Jacques Guerlain.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Il n'a quasiment jamais parlé de son métier, encore moins raconté sa vie. Elle se retrace pourtant à travers les dizaines de parfums qu'il a créés, dont le succès et la longévité furent tels que beaucoup sont parvenus jusqu'à nous. Jacques Guerlain est né en 1874 dans une famille déjà illustre. Son aïeul, Pierre-François Pascal Guerlain, a fondé en 1828 la maison qui porte son nom. Dans le Paris élégant de la haute couture naissante, il réalise, en plus des parfums, quelques coups de maître, comme la pyromée, un crayon kohl qui promet un regard de braise et que les femmes s'arrachent. On dit l'homme presque magicien, en tout cas de prestigieux clients se pressent chez lui comme Honoré de Balzac ou Alexandre Dumas. Pierre Guerlain crée même pour l'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III, la fameuse haute Cologne. Le fils de ce brillant entrepreneur, Aimé, reprend l'affaire. Jacques, qui lui succédera, est son neveu. Tous les deux sont très liés. Jacques va régulièrement observer le travail de son oncle dans son laboratoire. L'adolescent ne manifeste pas seulement un fort intérêt pour l'art de la parfumerie, il possède aussi un talent certain. En 1895, il n'a que 20 ans quand sort son premier parfum officiel pour la maison. Bientôt, il sera à la tête de la création de la maison de ses ancêtres, le parfumeur en chef. En plus de la solide formation que son oncle lui a apportée, il a suivi les cours de Charles Friedel, chimiste réputé à la Sorbonne. Dès 1906, le parfumeur décide de s'appuyer sur des notes de synthèse, malgré les opinions de ceux qui n'y voient qu'un procédé artificiel dévoyant la nature. Pour Guerlain, ces notes sont, selon ses propres mots, des tuteurs invisibles soutenant les essences naturelles pour en révéler toute la splendeur. Jacques est un artiste, mais il est aussi passionné de science, toujours à la recherche de nouvelles techniques. Pour l'assister, il embauche d'ailleurs un chimiste au poste de directeur scientifique. Le siècle qui s'ouvre est celui du progrès, et les découvertes s'enchaînent. La maison Guerlain entend ne pas les laisser passer. Adolescent, Jacques Guerlain s'était déjà essayé à la création d'un premier parfum baptisé Ambre. Il se distinguait par des notes sensuelles et suaves qui seront bientôt sa marque de fabrique. Le créateur imprime en effet un style bien particulier à la maison, une sorte de fil conducteur olfactif nommé Guerlinade, qui se retrouve de parfum en parfum. Un subtil mélange de fèves tonka, d'iris, de rose, de jasmin et de vanille qui servira de base à ses plus grands succès. Des compositions de légende qui disent son attrait pour un Orient fantasmé. Le Japon avec Mitsuko, la Chine avec Liu, puis l'Inde du Taj Mahal avec Shalimar en 1905. Les jus sont enfermés dans des écrins de luxe signés Baccarat aux formes originales et aux couleurs inattendues. Jacques Guerlain est un homme de son temps. Il a compris tous les enjeux de son époque, la belle époque. Il sait que le parfum, dans le Paris des plaisirs et du raffinement, n'est plus un produit aux arguments hygiénistes, mais un bel objet, une matière pour rêver. Pour créer, il s'inspire de ses souvenirs, des paysages et des tableaux impressionnistes qui couvrent les murs de son bureau. Jacques travaille seul et beaucoup aidé du livre des formules, le grand manuscrit relié de cuir noir hérité de ses ancêtres, sorte de grimoire contenant tous les secrets de famille. Partout, il emporte avec lui des languettes de papier imprégnées de ses derniers essais. Il les renifle en permanence, voit comment elles évoluent et résistent au temps. En 1905, Jacques a épousé André Bouffet, dite Lily, une belle femme distinguée dont la distinction inspirera toujours son mari. Pour elle, il crée l'or bleu, un jus mythique aux accents musqués. Le parfum dit toute la plénitude d'un temps qui ne va pas tarder à basculer dans l'horreur. En 1914, la Grande Guerre éclate et Jacques est mobilisé. Son parfum est distribué aux poilus dans les tranchées. On le renomme bientôt « Parfum de la Marraine » en hommage aux femmes qui expédient des petits paquets et des lettres pour réconforter les soldats au front. Mais les effluves ne protègent pas de tout. Jacques est gravement blessé, il perd un œil. Rentré à Paris, profondément meurtri par les atrocités dont il a été le témoin, il reprend néanmoins son travail en silence. Comme son aïeul avant lui, Jacques Guerlain a su séduire la bonne société parisienne. En 1906, un journaliste mesure le succès de son parfum, après l'ondée, aux effluves qui émanent des tribunes de la réunion hippique des Grands Prix de Paris. Le parfum, écrit-il, a quelque chose de la mélancolie d'une pensée du poète. Il est vrai que Jacques est très sensible à l'art et aux artistes de son temps. Sarah Bernard, de son vrai nom Henriette Rosine Bernard, l'immense star du théâtre de la Belle Époque, qu'il admire, lui inspire un parfum. Voilà pourquoi j'aimais Rosine. Dans les années 30, c'est à Joséphine Baker qu'il dédie une essence, tandis qu'il en compose une autre pour Serge de Diaghilev, le créateur des ballets russes. Les vedettes lui rendent d'ailleurs cet amour. Vaslav Nijinsky, danseur des mêmes ballets, vaporise du Guerlain sur les rideaux de la scène avant les représentations. La maison compte Charlie Chaplin et même Édouard VII, le roi d'Angleterre, parmi ses clients. Dans ses romans, Louis Aragon cite plusieurs fois le nom de Guerlain. En 1939, Jacques inaugure son nouveau projet, un institut de beauté décoré par les plus grands noms de l'art déco. Mais ce luxueux écrin ne permet pas d'étouffer les rumeurs de la guerre. Dans les premiers mois du combat, Guerlain perd son fils, Pierre, inconsolable. Il ne survit que pour tenter de préserver avec ses autres enfants l'entreprise familiale. Contraint de réaliser pour l'occupant allemand un parfum, il sera accusé de collaboration à la sortie de la guerre. De ses chagrins, Jacques Guerlain ne se remettra jamais vraiment. Il meurt en 1963, non sans avoir pris soin de léguer la direction de la création à son petit-fils Jean-Paul. Ensemble, ils créent le dernier parfum de Jacques, Ode, un mélange de rose, de jasmin et d'iris, un hymne à l'art si délicat du parfumeur.
Europe 1, historiquement vôtre.
Et pour continuer à parler de Jacques Guerlain, nous retrouvons l'historienne Elisabeth de Feydeau.
Oui, Elisabeth de Feydeau, vous êtes spécialiste des parfums, la preuve s'il en fallait une, avec le dictionnaire amoureux des parfums qui vient de paraître chez Plomb, spécialiste de ceux qui les font aussi, et parmi eux Jacques Guerlain, dont vous avez raconté la vie dans le roman des Guerlains, Parfumeur de Paris, et qui est paru chez Flammarion. Les Guerlains, c'est une histoire singulière, mais c'est une histoire au pluriel, c'est celle d'une histoire d'une famille, d'une dynastie au fond.
Tout à fait, puisque le fondateur crée sa maison de parfum, comme on dit à l'époque, en 1828. Et il est lui-même issu d'une dynastie, alors non pas de parfumeur, mais de potier d'étain, qui tout de même était aussi marchand d'épices. Donc vous voyez, il y avait quand même cette notion d'odeur dans la famille. Et puis, ben, il va léguer son affaire à ses fils, qu'il allégueront à ses fils, ainsi de suite, jusqu'à Jean-Paul Guerlain.
Mais cela dit, on n'est pas né de père en fils.
Ah oui, à l'époque, on est né de père en fils, parce que sinon votre phrase n'avait aucun sens, Stéphane. Il faut bien dire l'orthographe
du
mot.
Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on dit né pour créateur de parfum.
Oui. C'est vrai, on n'est pas forcément talentueux pour la composition des parfums, mais il y a quand même un peu d'hérédité. Et alors, chez les Guerlain, si vous voulez, la formation se faisait, donc la formation était familiale, à l'intérieur de la maison, et les héritiers se devaient tout savoir, savoir tout faire, et ensuite étaient distingués selon leur talent. Donc l'un était affecté aux affaires et l'autre plutôt à la création. Et on voit à chaque fois la répartition qui se fait de génération en génération.
Dans votre dictionnaire, à la lettre G comme Guerlain, vous revenez sur l'expression « être Guerlain », signifiant à la fois l'appartenance à la prestigieuse dynastie Guerlain et celui aussi de porter un parfum de la maison. Être Guerlain, ça se transmet de génération en génération. Est-ce que c'est lié à ce que Stéphane appelait la guerlinade ?
Alors oui, c'est dû à la guerlinade, mais c'est aussi dû à une expression que j'entendais souvent autour de moi, où on me disait « Ah, on est très Guerlain dans la famille ». Alors ça voulait dire que, hors des parfums Guerlain, on n'en portait pas d'autres, vous voyez. Donc il y a ce côté très appartenant, si vous voulez, à un monde olfactif aussi, qui est lié à la guerlinade, effectivement. Puisque un parfum Guerlain se reconnaît par ce saut olfactif, cette espèce de couture, si vous voulez.
Et pardonnez-moi, ce n'est pas le cas des autres maisons de parfums.
On peut l'avoir, chez certaines maisons on le retrouve, parce que forcément il y a un petit peu, on va dire, des tics. Mais chez Guerlain, c'est très symbolique, et surtout, c'est que c'est de génération en génération.
Justement, vous soulignez que dans le développement de la maison Guerlain, le résultat du labeur patient de 5 générations de parfumeurs, un cas unique en parfumerie sur lesquels passèrent 3 guerres, plusieurs crises économiques. Au fond, qu'est-ce qui les a fait durer ? Parce que Metternich disait, le vrai chef-d'œuvre, c'est de durer. C'est quoi leur martingale, leur secret ?
Alors peut-être la devise du fondateur, qui disait « faites de bons produits, ne cédez jamais sur la qualité ». Et pour le reste, ayez des idées simples et appliquez-les scrupuleusement. Donc c'est finalement une phrase très juste. Et aussi, il y avait cette formation familiale intransigeante, hein, parce qu'il n'y avait aucune compassion. Hein. Si on était mauvais, on était mauvais. On le voit très bien, par exemple, quand Jacques Guerlain va décider de son héritier, parmi ses deux petits-fils, il décide du second, Jean-Paul, alors que c'était l'aîné qui avait commencé à faire sa formation pour devenir parfumeur. Je ne sais pas s'il est nul, ça on ne le dit pas. Mais en tous les cas, Jacques tranche un jour. Il dit, ça sera Jean-Paul, parce qu'il avait réussi cet exercice de la jonquille.
Sans prévoir qu'il deviendrait nul à la fin de sa vie.
Ça, il ne l'avait pas senti venir.
Parce qu'il en a dit des bêtises. Celui-là.
Mais alors, sur le plan parfumistique, il est resté bon.
Ah oui, voilà. Uniquement sur le plan technique.
Sur le plan politique, c'était voilà.
Moins bien. Ce qui est intéressant chez Guerlain, c'est aussi ce mélange entre tradition et avant-garde. Parce que, on l'a dit, alors évidemment, c'est une longue tradition, mais il y a aussi le pari de la chimie sur notamment les notes de synthèse qu'il utilise, Jacques, à une époque où ce n'est pas du tout... En vogue, c'est même mal vu.
Tout à fait. On parlait à l'époque de tuteurs invisibles. On n'osait pas avouer l'utilisation des notes de synthèse. Là encore, vous voyez, la formation est essentielle, puisque Jacques Guerlain apprend bien sûr de son oncle, Aimé Guerlain, mais il va aussi aller à la Sorbonne étudier la chimie, notamment il sera dans la chaire de Charles Friedel. Donc il va vers les meilleurs, il se forme et il connaît parfaitement ses notes de synthèse qu'il va magnifiquement utiliser. Et c'est ainsi qu'il va créer les grands chefs-d'œuvre. Les grands chefs-d'œuvre Guerlain, quand même, on les doit à Jacques.
Mais ce qui est fou, c'est que je ne sais pas s'il y a d'autres exemples dans le monde de la parfumerie de parfums qui résistent à l'usure du temps. Vous prenez Chalimard, par exemple. On connaît tous, au moins ma grand-mère portait Chalimard. Enfin, vous voyez, c'est-à-dire ça se transmet de génération en génération, alors qu'il y a tellement de parfums qui arrivent sur le marché chaque année, des créations. Mais oui, c'est une famille, Guerlain, comme vous le disiez très justement.
Alors, on a quand même un grand centenaire cette année dans la parfumerie, c'est le numéro 5 de Chanel.
Ah ben,
Et effectivement, qui est contemporain de Chalimard, qui a été créé en 1921, mais qui a été lancé en 1925, parce que Jacques Guerlain, enfin la famille Guerlain, voulait attendre la fameuse grande exposition des arts décoratifs industriels modernes qui s'est tenue à Paris en 1925. Et donc là, c'était un merveilleux endroit pour lancer ce parfum que les Guerlain voulaient déjà comme un parfum historique.
Oui.
C'est ça qui est assez amusant.
Mais c'est fou,
ils le disent en 1925.
Et il l'est devenu. Mais ce qui est fou aussi, c'est que les Guerlain ont fait toujours le pari de l'art.
Tout à fait.
C'est-à-dire, à la fois, ils créent des parfums grâce au voyage, c'est ce que j'ai raconté, mais aussi pour des gens, Sarah Bernhardt, Charlie Chaplin, Josephine Baker, par exemple.
Oui, ils sont inspirés. Alors ça, c'est Jacques aussi. On le doit beaucoup à Jacques, parce que Jacques était épris de littérature, de peinture également. Il était très admiratif des impressionnistes, collectionneur également de tableaux impressionnistes. Et il était ami de tous ces artistes de son temps à qui il crée en hommage des parfums qui leur vont bien. Donc en effet, Sous le vent pour Joséphine Baker, c'est un parfum qui colle parfaitement à la personnalité de Joséphine Baker, qui a quand même mis un peu de vent dans le musical. Et puis aussi, un peu plus tôt, en 1901, avec Voilà pourquoi j'aimais Rosine, pour Sarah Bernard, dont le véritable prénom était Rosine. Et là encore, quand vous sentez son parfum, vous avez tous les portraits de la divine devant vous. C'est exactement ça, un parfum curé, un fauve, extrêmement envoûtant, bourré de patchouli. Donc, il avait cette capacité, si vous voulez, de transcrire en fait les personnalités dans des parfums. Et c'est ça aussi qui a fait son grand succès, c'est qu'ils étaient des parfumeurs sur mesure.
J'ai une question plus personnelle pour terminer, Elisabeth de Feydeau. Votre parfum de vos 16 ans, vous le portez toujours ?
Bah oui, alors je suis très fidèle en tout, mais aussi en parfumerie. Et c'est vrai que je porte toujours L'Heure Bleue de Guerlain, qui m'a envoûtée, d'abord pour son nom. C'est ça aussi qui est très beau chez Guerlain, c'est cette dimension littéraire de la parfumerie. C'est une parfumerie très narrative. Et le nom m'a tout de suite transportée. Et puis ensuite, bien sûr, l'odeur. C'est un parfum qui est magique.
Vous portez toujours le même parfum, vous aussi, monsieur.
Toujours Dracard Noir.
Hein. Ah, bah oui.
Non, mais toujours le même parfum. C'est L'Homme idéal, tout simplement.
Ah, ah c'est de Guerlain.
Et oui, c'est vrai, en plus.
En tout cas, merci Elisabeth de Feydeau pour nous avoir accompagnés aujourd'hui pour parler des parfums. Des parfums dont vous racontez tout de A à Z dans votre dictionnaire Amoureux des parfums qui vient de paraître chez Plon. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on évoque ces personnages de l'histoire qui ont créé ou qui ont incarné un parfum. Après Jean-Louis Fargeon et Jacques Guerlain, des créateurs de parfums, vous nous brossez, Mathieu, le portrait à 99% vrai d'un acteur qui, lui, incarne un parfum. Mais pas seulement, car dans les années 90, Alain Delon avait aussi lancé son propre parfum.
Oui, Stéphane, c'est notre troisième personnage du jour et comme lui s'est lancé dans le parfum sur le tard par rapport à Fargeon et Guerlain, ça justifie qu'on ait pu donner à notre émission du jour ce titre à la fois et piégeux pour ceux qui maîtrisent mal les subtilités de la conjugaison française.
Demain, ils se sont mis au parfum.
Ils se sont mis au parfum. Oui, excusez Stéphane, il n'a fait que français LV3 après luxembourgeois et monégasque. C'est notre fil conducteur cet après-midi.
Que celui qui n'a jamais fait une faute me jette la pierre.
Ah bah, ce sera pas moi. C'est notre fil conducteur cet après-midi, les amis. Et oui, après deux parfumeurs de génie, je vous raconte le destin d'une star qui a vendu des parfums. Alain Delon n'est bien sûr pas la première vedette à avoir prêté son image à une fragrance. La liste est longue. Julia Roberts et La vie est belle de Lancôme, Charlize Theron et son J'adore pour Dior ou encore Nana Mouskouri pour Airwick. C'est pas Airwick d'ailleurs, en plus c'est Wiza. On n'a pas le droit de toucher Nana Mouskouri, mais ça se trouve ça lui ferait plaisir. Certaines célébrités vont plus loin en créant leur propre parfum. On pense à l'emblématique White Diamonds d'Elizabeth Taylor, sortie en 91 et toujours populaire chez les gays de plus 50 ans. Il y a bien sûr ça. Vous avez des informations là-dessus, c'est
non,
pas il y a bien sûr Glow de Jennifer Lopez, senteur signature de Stéphane depuis 2002. Ouais. Et en France, une seule star pouvait légitimement, sur son seul nom, lancer une gamme de parfums. Le seul, l'unique, la star absolue, Dieu vivant pour les boomers, vieux xénophobes libidineux pour les millennials. Il n'est pas avec nous en studio aujourd'hui car le studio est trop petit pour lui. Mais ça n'a pas d'importance car il est partout, tout le temps. Il est l'homme avec un grand H, mais aussi l'homme avec un grand O de l'hindouisme. Le tout, l'absolu, l'essence du monde, Alain Delon. Il a aujourd'hui 85 ans, mais là aussi c'est un détail car Alain Delon ne vieillit pas.
Il mûrit. Ses cheveux ne blanchissent pas, ils s'illuminent. Tu t'inquiètes pas. Un samouraï. Il ne doit rien à personne. Ni au Roku, ni à ses frères, ni au clan des Siciliens. Avez-moi.
Avez-lui. Alain Delon ne vieillit pas. Il ne sent pas non plus. Hein. C'est donc par pur altruisme qu'il a créé Alain Delon le parfum. Pour les hommes normaux qui, comme Olivier Pouls, après une dure journée de travail, commencent à sentir un peu.
Ah oui, ça sent le Roquefort.
Oui, vite, pchitons du Delon sur Pouls. Alain a lancé son jus, si je peux m'exprimer ainsi, en 1980. AD by Delon, notes de tête, basilic, bergamote, lavande et genévrier. L'occasion de nous replonger dans le destin inouï de celui qui se qualifie lui-même de dernier mythe vivant du 21e siècle. C'est pratique de se qualifier soi-même. Le mythe vient au monde à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, le 8 novembre 1935. La légende dit qu'en signe de soumission, l'automne aurait décidé de s'interrompre et les plantes de refleurir pour marquer la venue au monde de celui qui allait devenir le playboy du 21e siècle.
du 21e aussi d'ailleurs. Playboy et dragueur invétéré, on dit d'ailleurs que son premier clin d'œil libidineux aurait été pour la sage-femme qu'il a sortie du ventre de sa mère. Sa mère, Edith, une jeune femme corps sublime dont il hérite de la beauté et qui va adorer ce fils aux traits enchanteurs et accrocher sur son landau l'écriteau « Regardez-le, mais ne le touchez pas ». Freud aurait certainement beaucoup à dire sur l'impact de cette relation mère-fils sur le narcissisme que certaines mauvaises langues ont cru détecter plus tard chez Delon. Sa famille, c'est la petite bourgeoisie. Papa est directeur du cinéma de Bourg-la-Reine et maman est employée dans une pharmacie. Ses parents divorcent quand il a 4 ans et il se retrouve placé en famille d'accueil. Il le vit moyen, Alain. Plus tard, c'est la pension. Il est dissipé, il se fait renvoyer de 6 établissements différents. Son demi-frère dit de lui qu'il avait le goût de la castagne et que c'était pas un guéluron, plutôt un jeune chien fou. Sa mère se remarie avec un boucher charcutier de Bourg-la-Reine, récupère Alain qui vient vivre avec eux et qui en profite d'ailleurs pour passer son CAP de charcuterie. Mais voilà, Alain ne se voit pas faire carrière dans le boudin. Il rêve d'aventure, alors il devance l'appel et s'engage dans l'armée à 17 ans, direction la Marine nationale. Où il se fait remarquer déjà, mais pas pour les bonnes raisons. Il chaparde du matériel à la caserne. Pour le calmer, ses supérieurs décident de l'envoyer à Saïgon pour tâter à la guerre d'Indochine. Oui. Il ne verra pas grand-chose du conflit en débarquant en 54, à part quelques combats de rue. Il sera renvoyé en France pour avoir volé une Jeep militaire et causé un accident. Alain est décidément intenable et c'est là une constante de la personnalité de Delon. Il est rebelle à toute forme d'autorité. Il y a des gens comme ça, comme Stéphane aussi, c'est plus fort qu'eux. Ils ne peuvent pas soumettre aux règles. Parfois, hors antenne, il me choque, Stéphane.
Moi, j'ai une attestation. Paris-Centre-Val-de-Loire.
C'est quoi cette attestation? Moi, je veux la Paris-Orne.
Tu te la fais toi?
Burn to be wild soit l'hymne de toute une génération. Alain Delon aussi est donc un insoumis. À 20 ans, alors qu'on l'a réexpédié en France, il coupe les ponts avec sa famille, direction Pigalle. Ses bars, ses putes, ses truands, ses coups bas, bref, l'antichambre idéale pour qui souhaite se préparer au showbiz. Pour survivre, Alain enchaîne les petits boulots. Il est manutentionnaire au Halles, puis serveur dans un café du 8e. En boîte de nuit, sa bogositude ne passe pas inaperçue. Et Dalida, malgré son strabisme, le repère. Il la fait chaud, puis il jette son dévolu sur l'actrice Brigitte Hober, grâce à qui il rencontre Jean-Claude Brialy, qui, sous le charme, l'invite au Festival de Cannes, où, à nouveau, sa beauté fait sensation. Sa beauté est aussi ce que les anciens appelaient un indéfinissable magnétisme, et qu'on appelle, nous, « sentir le cul ». Elle dit souvent que sans les femmes, il ne serait pas devenu acteur. C'est vrai. En 56, il fricote avec Michèle Cordoue, la femme du réalisateur Yves Allégret, qui, non contente de le faire cocu, réussit à lui faire embaucher Delon dans son prochain film, dont le nom est une allusion involontaire mais amusante au stratagème qui a présidé au premier pas de Delon à l'écran, Quand la femme s'en mêle. Nous sommes en 57 et sans avoir jamais poussé la porte du cours Florent, Alain Delon est acteur. Il déclara plus tard « Ce sont les femmes qui me veulent, me font, me donnent tout ». Il faudrait probablement empiéter sur le 18-20 pour énumérer ici la liste de ses conquêtes. En gros, entre 55 et 70, il semblerait que toute femme croisant les yeux d'Alain Delon appelle immédiatement sa meilleure amie pour lui dire
« Chérie, me voici amoureuse ».
Mais enchaîner les conquêtes, vous le savez David, vous qui êtes aussi un fieffé séducteur.
C'est mauvais pour le zizi.
Pour le cœur, pour le cœur. Car qui dit beaucoup d'histoires d'amour dit aussi beaucoup de séparations, certaines plus douloureuses que d'autres. En 63, il quitte Romy Schneider, lui laissant ce mot dans leur chambre d'hôtel. « Je suis parti à Mexico avec Nathalie. Mille choses, Alain. » Conscient que c'est peut-être un peu court, il lui rédigera plus tard une vraie belle lettre de rupture. « La raison me force à te dire adieu. Nous avons vécu notre mariage avant de nous épouser. Notre métier nous enlèverait toute chance de survie. Je te rends ta liberté en te laissant mon cœur. » Leçon pour tous ceux qui quittent par texto. Une belle lettre vous permet de conserver l'affection de la personne que vous avez aimée. 5 ans plus tard, ça donnera « La piscine » de Jacques Deray, qui n'en a qu'une. « Oh Stéphane, vous avez encore mis une connerie dans mon texte. Merde, j'arrête de bosser sur Google Doc, moi. Ça lire un moment si émouvant. » Dont Delon dit « C'est mon plus beau souvenir. » Il parle de la piscine. Été 68, la maison à Saint-Tropez, la lumière, Romy. J'avais l'âge du Christ, 33 ans, l'âge idéal pour un homme. Sauf que là, contrairement au Christ, Dieu n'a pas le courage de le rappeler à lui. Il laisse donc Alain Delon poursuivre son étincelante carrière qui va de Plein Soleil, de René Clément à Rocco et ses frères, de Visconti, le Guépard, le Samouraï, Borsalino, le porte au firmament du 7e art. Entre deux tournages, il fait un enfant à Nathalie, divorce de Nathalie, chope Mireille d'Arc, offre des caramels à sa vieille pote Dalida. Mais même quand Delon fait n'importe quoi, il le fait avec panache, comme lorsqu'il accepte de tourner sous la direction de Bernard-Henri Lévy dans le film intitulé « Le jour et la nuit ».
Quelle horreur !
Oui, c'est un four au box-office et c'était pas un navet comme les autres puisque les cahiers du cinéma lui remettent le prix du plus mauvais film jamais réalisé depuis 1945. Ce n'est pas grave, car pour Alain, l'heure est à la diversification. Avec sa société Alain Diffusion SA,
Il lance une gamme de parfums. On a cité AD pour les hommes. Il y avait aussi Lyra pour les femmes, un parfum ambré dont les notes de tête sont le bois de rose brésilien, le citron et le néroli. D'autres parfums hommes suivront. Pharos, Samouraï ou encore Shogun, aux extraits de phéromones d'actrice pécho par Alain Delon. En France, dans les années 2000, Alain Delon devient un peu comme son parfum, de plus en plus évanescent. On le retrouve sur le petit écran dans des séries comme Fabio Montal et Franck Riva. Mais voilà, il n'est plus seul. D'autres beaux gosses plus jeunes ont trusté les rôles de flics sexy, à commencer par Stéphane Bern dans Meurtre en Lorraine. Stéphane à qui Dior songe d'ailleurs à un moment pour incarner son parfum au sauvage. L'idée serait d'utiliser des photos de Stéphane lorsqu'il était à son apogée physique vers l'âge de 33 ans. Hélas, les seuls clichés de cette époque qu'on retrouve ne sont pas du genre diffusables en 4x3. Dior se rabat donc pour les photos sur Alain Delon, période la piscine. Pour un second choix, la campagne marche pas trop mal. Stéphane est passé à côté d'une opportunité, mais il se rattrapera avec la campagne Yellow Camping.
Et le village, les plus beaux hôtels de pleine mer.
Bern, Delon, un partout, score final, car après son AVC l'année dernière, Alain Delon semble désormais décider à couler des jours paisibles avec ses chiens dans sa propriété de Douchy, dans le Loiret, loin des spotlights. Quoi qu'on pense de l'homme et de ses positions politiques parfois provocantes, il restera un des plus grands acteurs français, pas comédien. Il insiste bien là-dessus, je cite « Ma carrière n'a rien à voir avec le métier de comédien. Comédien, c'est une vocation. Je suis un acteur. Un comédien joue, un acteur vit. Moi, je n'ai jamais joué, j'ai vécu mes rôles. » Et ces rôles, indéniablement, ont marqué le cinéma français. C'est pourquoi, par respect pour ce parcours, je n'évoquerai pas ici les quelques polémiques qui ont fait les choux gras de la presse suite à certaines déclarations d'Alain Delon. Oui, certains lui reprochaient d'être devenu un vieux réac misanthrope, limite raciste et misogyne. Bon, faut relativiser. Beaucoup de propos ont été sortis de leur contexte. À partir de là, c'est toujours facile de passer pour un réac. Si on faisait par exemple un montage de ce qu'a dit Stéphane dans cette émission...
Tous les Moldaves parlent roumain.
Oui, oui, crypto comme les crypto-communistes.
Marichal, nous voilà.
Voilà, donc finalement, il y a une prolongation. Bern, Delon, de partout, la balle au centre. Enfin, au centre, plutôt à droite.
Mais assumez, Mathieu.
Bon,
il y a beaucoup de choses. Mais attendez, l'histoire de Bourg-la-Reine, ça je ne savais pas.
Ah, ça c'est vrai. Oui. Mais... Il a son CAP charcuterie. Hein.
Il a un CAP charcuterie.
Oui, il a failli. Enfin, il a failli. Je ne pense pas qu'il y ait songé vraiment sérieusement. Mais...
Et l'histoire de l'écriteau sur le berceau,
alors
c'est
ça,
vrai.
Apparemment, c'est vrai aussi. Je l'ai trouvé en tout cas.
Regardez-le, mais ne le touchez pas.
Mais psychologiquement, ça peut.
Mais bien sûr. Avoir
fait, oui. Sa mère l'aimait, en tout cas.
Ah, ça explique beaucoup de choses.
Ça explique quasiment.
En tout cas, merci Mathieu, mais c'était passionnant.
Europe 1, historiquement vôtre.
Il est l'heure de dire au revoir à nos personnages du jour.
Oui, et d'aérer un peu aussi, Stéphane, parce que là, on croirait un samedi après-midi chez Sephora.
Oui, aérons. Ça ne peut pas faire de mal quand Olivier Pousse et David Cassio-Lopez nous rejoignent.
Oh non.
Parce qu'avec eux, on apprend à décoder notre quotidien à l'aune de l'histoire.
Je sens un saucisson brioché, Stéphane.
Oui. Si Alain Delon avait poursuivi sa carrière de charcutier, peut-être qu'un jour, il aurait fait des saucissons briochés.
Le mot de la fin, Stéphane, c'est vous qui l'aurez, oui. Évidemment, chaque jour.
Oui, alors aujourd'hui, on est dans le coltard. Hein, c'est un peu être dans les vapes. D'où vient ce coltard?
Et vous nous direz aussi comment
l'écrire. Comment ça s'écrit?
Merci beaucoup, oui. Merci d'avance.
Je vous l'expliquerai dans un instant.
Mais tout de suite, on retrouve David Castello-Lopez, non pas pour une chronique, mais le feuilleton promis de David Castello-Lopez sur le Viandox. C'est une saga.
Oui, tout à fait. Je vais vous parler du Viandox aujourd'hui, mais vous l'avez dit, comme le Viandox, c'est vraiment c'est un sujet trop vaste pour être traité en une seule chronique de 5 minutes. Donc j'ai décidé, pour la première fois de l'année, de le traiter sous la forme d'un feuilleton en deux épisodes. Deux épisodes sur le Viandox, avec épisode 1 aujourd'hui, les origines du Viandox, et épisode 2 demain, le futur du Viandox. Alors c'est parti pour l'épisode 1.
Et vous avez pris combien en partenariat Viandox avec Viandox?
J'ai rien pris rien pris du tout.
C'est une marque maintenant?
Alors tout d'abord, oui. Ça a toujours été une marque. Alors tout d'abord, le Viandox, qu'est-ce que c'est? Le Viandox, j'en ai apporté ici, c'est un liquide alimentaire à base d'extrait de viande de bœuf que l'on peut utiliser pour relever des sauces ou bien si on le dissout dans de l'eau chaude comme une boisson goût viande. Vous voyez? Une sorte de vitel-mante, sauf que c'est du vitel-viande. Voilà. Le Viandox, en gros, ça... Le
mais Viandox, en gros, c'était à la mode dans les bars.
Tout à fait. Le Viandox, en gros, ça a 100 ans et c'est l'incarnation française d'une invention allemande faite par un monsieur dont on connaît tous le nom, Justus von Liebig.
Oui, la sauce Liebig. Justus, les soupes Liebig.
Exactement. Justus von Liebig, c'était un chimiste. Et au milieu du 19e siècle, il cherchait une façon de faire profiter de la viande aux gens pauvres qui n'avaient pas les moyens d'en acheter. Et il s'est dit en gros... J'ai qu'à prendre le jus qui reste au fond de la casserole et
les pauvres s'en contenteront.
Voilà. Et bon, si je suis honnête, c'est un petit peu plus compliqué que ça parce qu'il faut cuire la viande d'une certaine façon, puis cuire à nouveau le jus sous pression, tout ça. Mais en gros, c'est ça le principe de base de l'extrait de bœuf. Et c'est Liebig, le premier, qui a sorti un extrait de bœuf grand public en 1865, fabriqué en Uruguay. Pourquoi en Uruguay ? Eh bien parce qu'en Uruguay, il y a des quantités folles de bétail pas cher et donc que c'était rentable. Un bel exemple de produit mondialisé avant la lettre. Bon, après, c'est un tout petit peu du foutage de gueule de dire que ça amenait de la viande aux pauvres, puisque faut pas se leurrer, le bouillon liébique par rapport à de la viande, c'est comme si vous faisiez un thé avec un Big Mac. Vous voyez, c'est quand même pas tout à fait un Big Mac. Hein, c'est pas tout à fait au niveau nutritif la même chose. Quoi qu'il en soit, ce n'est que dans les années 20 que la filiale française de liébique, qui s'appelait la Compagnie française des produits liébiques, a sorti le Viandox, avec assez vite des campagnes marketing typiques de l'époque. C'est-à-dire que c'était servi dans des tasses estampillées Viandox. Il y avait des plaques en émail dans les bistrots Viandox, des porte-clés Viandox, des pubs dans les journaux. Et c'est devenu une boisson populaire pendant des dizaines d'années. Ma mère m'a toujours raconté qu'on voyait à Paris dans les années 60 des gens entrer au bistrot et commander du Viandox. Et c'est d'ailleurs ce qui est raconté dans une des chansons les plus connues de Renaud, Marche à l'ombre, dont on va écouter un extrait dans quelques secondes. Pour vous donner le contexte, Marche à l'ombre, c'est l'histoire d'un pilier de bar qui agresse verbalement et physiquement tous les clients du bar dont ils n'aiment pas le style ni la gueule. Successivement un baba cool, une bourgeoise et finalement un blouson noir. On écoute.
Avant qu'il ait bu son Viandox, j'ai chopé contre le jukebox et je lui ai dit, toi tu me fous les glandes, puis t'as rien à foutre dans mon monde. Arrache-toi de là, t'es pas de ma bande, casse-toi tu putes et marche à l'ombre.
Avant qu'il ait bu son Viandox, je l'ai chopé contre le jukebox.
Toute une époque.
Ce qui tente, ça date de 1980, ça tend à montrer qu'en 1980, les durs à cuire, donc les blousons noirs qui entraient dans les bars, ils commandaient un Viandox et que donc, dans une certaine mesure, le Viandox était cool. Et puis sont venues les années 80 qui ont essayé de tout moderniser. Ils étaient obsédés par l'absence de ringardise, donc ils ont essayé de tout moderniser. Et le Viandox n'y a pas échappé, comme le montre cette publicité de 1988 que je vous propose d'écouter.
Une petite déprime dans la cuisine ?
Alors juste un peu de Viandox.
Et les pâtes font un succès. La volaille est acclamée, ça swing dans la purée.
Avec Viandox, on peut corser tout ce qui vous plaît. Viandox, pour un peu, on en mettrait partout.
Voilà. Les pâtes sont un succès, la volaille est acclamée,
ça swing dans la purée. Ça, c'est magnifique.
Il y a quand même un degré d'exagération dans l'enthousiasme dans les années 80 qui est très touchant. Et surtout, vous avez entendu quand elle dit « Viandox, pour un peu, on en mettrait partout ». Vous savez ce qu'on voit à l'image à ce moment-là ? On voit le petit ami de la dame qui arrive à la maison après une journée de travail. Ouais. Là, la dame l'embrasse passionnément, puis elle prend la bouteille de Viandox sur la table et la plan serré sur le visage du monsieur ultra surpris. Et le slogan « Et pour un peu, on en mettrait partout », vous avez compris ce que ça voulait dire maintenant ? Ça veut dire qu'elle lui met du Viandox sur le zizi. C'est ça que ça veut dire. Et ça passait à 20h30 à la télé. Bonjour les enfants, nous vous proposons d'utiliser de la sauce industrielle dans un contexte érotique. Qu'en dites-vous ? Non, on veut pas. Vous voyez, c'était ça les années 80. Bon alors, depuis le Viandox, hein, il s'est tristement ringardisé. On ne le trouve plus dans les bistrots. Les gens coulent, ça va peine ce que c'est. Et bien sûr, son nom est incroyablement suranné. Ne serait-ce que parce que le mot viande lui-même n'est plus un mot sexy, plus du tout. Mais... Pourtant, le Viandox a probablement un avenir. Et c'est cet avenir qui fera l'objet du second épisode de cette série demain, en exclusivité sur Europe 1. Suspense dans vos visages.
C'est mieux que le cliffhanger d'une série Netflix. Exactement. Avec vous. Vraiment, on a envie
en
d'être déjà demain.
Ils ont trouvé le meilleur représentant de commerce.
Vous êtes vraiment très fort.
Mais je vais quand même vous livrer un secret que pratiquement aucun grand chef cuisinier n'osera avouer, même avec un revolver sur la tempe. Il y en a des Viandox ou son cousin, parce qu'il y a une autre, il y a un concurrent, hein,
oui,
qui est la sauce magie. Il y en a souvent un peu planqué dans les cuisines, et quand les sauces effectivement manquent, un petit peu de peps, un petit peu de profondeur, tac tac tac, quelques petites gouttes.
Quand la purée ne swing pas assez.
Et par exemple, hop, ouais. Voilà. Mais il y a beaucoup de chefs cuisiniers qui l'utilisent en fait. Ils ne vous le diront pas.
À l'instant, Christophe Leroy nie en bloc ses accusations. Il dit, ça suffit, lâchez-moi.
Merci beaucoup David Castillo-Lopez. Et on peut retrouver tout, évidemment, les origines, en podcast, sur les applis audio et évidemment sur le site europe1.fr.
Et la suite de l'aventure Viandox qui n'est pas terminée, Stéphane, demain, évidemment. En attendant, on retrouve Olivier Pouls. Aujourd'hui, Olivier, vous nous parlez
Du saucisson brioché, parce qu'après 8 minutes sur le Viandox, il est peut-être temps de revenir vers des fondamentaux, des vrais plats de cuisine, des choses un peu sérieuses, mon cher David. Même si vous me préparerez un petit Viandox tout à l'heure, avec une bonne dose et un peu d'eau chaude. Hein.
Très bien.
Qu'est-ce que c'est que cette complicité très bizarre?
On en parlera demain.
En attendant, revenons à notre saucisson brioché. C'est l'un des grands emblèmes de l'une des plus célèbres cuisines au monde. mon cher Stéphane.
La lyonnaise, ouais.
La cuisine lyonnaise.
Je suis lyonnais, alors.
Voilà, depuis 2000, la gastronomie lyonnaise est quand même inscrite comme l'une des principales gastronomies au monde. Alors, on pourrait énumérer hein, toutes les spécialités, le tablier de sapeur, la cervelle de canut, les quenelles, et bien sûr, ce fameux saucisson brioché. Alors, mauvaise nouvelle, je ne vais pas vous donner le nom de l'inventeur du saucisson brioché, tout simplement parce qu'on ne le connaît pas. La période, ben, c'est probablement la fin du Moyen-Âge, puisqu'à la fin du Moyen-Âge, on a déjà inventé la brioche et on a inventé le saucisson. Le saucisson, bien avant d'ailleurs, puisque certains prétendent que dès l'Antiquité, on élaborait déjà les premiers saucissons. Mais les techniques se sont perfectionnées et c'est vraiment au moment du Moyen-Âge que le saucisson tel qu'on le prépare à Lyon, qui est un saucisson à cuire, généralement pistaché d'ailleurs.
Ah oui, pistaché, c'est bon.
Ouais, moi, je trouve ça très bon. Et puis, il y a un côté assez génial dans cette recette de combiner ces deux produits parce que, ben, en cuisant, ben, le saucisson, il va transmettre à la brioche tout son bon goût, tous les sucs de la viande et ça va
parfumer. C'est autre chose que le viandox, ça, évidemment. Ah, oui.
Et de la rosette, c'est fait avec de la... C'est fait avec quel saucisson ?
Alors, la rosette, ce n'est pas la même chose. La rosette, c'est fait avec, alors, je vais vous lire, avec les boyaux qui sont les plus proches de l'anus
du cochon. Très bonne cochon. Question de Stéphane Bern de Lyon.
Et donc, de la viande de cochon coupée. Vous en voulez un petit morceau, peut-être ?
Plus jamais, vous ne mangerez de la rosette de la même manière, Stéphane.
Attendez.
Bah oui, c'est pour ça que ça s'appelle la rosette.
Je ne sais pas si le nom est en fonction.
Mais du coup, ouais. Ça sent un peu la merde, non ?
Normalement, non. Et c'est lavé, il n'y a pas de danger, évidemment que non. Ce qui peut sentir un petit peu, c'est plutôt l'andouillette.
L'andouillette, ça sent. L'andouillette a une odeur quand même très limite.
Non, la rosette, non. On va revenir à notre saucisson brioché qui, lui, notamment avec ses petits morceaux de pistache dedans, sent extrêmement bon. Donc, la recette pour le réaliser, c'est assez simple, en fait. Bon, le saucisson, vous l'achetez, un saucisson en cuir, ça se trouve assez facilement chez les charcutiers. Peut-être qu'Alain Delon sait le faire encore.
Mais... Je vais l'appeler, c'est un petit coup de fil.
Mais sinon, chez un bon charcutier, vous allez trouver. Puis, il faut faire une pâte à brioche. Alors, une pâte à brioche, c'est 200 g de farine, 10 centilitres de crème fraîche, une petite pincée de sel, 3 œufs, un sachet de levure et 50 g de beurre ramolli. Donc dans le bol d'un robot, on va mélanger tous ces ingrédients. D'abord les œufs qu'on va battre avec un tout petit peu de sel. On va rajouter la farine, le beurre, la levure, la crème fraîche. On va faire une belle pâte bien homogène. On va prendre un moule à cake qui va au four. Un tiers de la pâte dans le fond, on vient poser dessus notre saucisson et on recouvre avec les deux tiers restants de la pâte. On enfourne 40 minutes dans un four pas trop chaud, autour de 150 degrés. Donc la brioche va évidemment gonfler, le saucisson va cuire, va parfumer le tout. Il n'y a plus qu'à démouler et à couper en morceaux. Ça peut faire soit une entrée, un apéro ou même un plat avec une bonne salade et un bon petit coup de Beaujolais. Pourquoi pas, puisqu'on est dans la région lyonnaise. Et je trouve qu'un saucisson brioché avec un verre de Beaujolais, ça me met en joie.
Du Beaujolais, mais de préférence, pas nouveau.
Non, pas. Et puis surtout, là, du nouveau, il n'y en a pas. On n'est pas du tout dans la saison, puisque le Beaujolais nouveau, c'est plutôt au mois de novembre. Mais non, un cru du Beaujolais. Pourquoi pas un morgon. Un fleury, un moulin vent, un régnier.
Avec modération, s'il vous plaît, nous dit Stéphane, qui effectivement est un adepte de la modération. J'ai pu le découvrir en dînant avec lui de nombreuses fois. Pas plus de 6 verres. Merci Olivier. On retrouve toutes vos recettes sur le site d'Europe1.fr. Et Stéphane, justement, ce show les babines pour nous raconter l'histoire d'une expression qu'on utilise sans savoir d'où elle vient. Aujourd'hui,
être dans le coltard. Non seulement vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais en plus, vous ne savez pas comment ça s'écrit.
C'est vrai.
Inutile, mon cher Mathieu, de remémorer ici vos lendemains de dîner particulièrement arrosés avec notre ami Olivier Pouls.
Non.
Mais il peut arriver que certaines personnes se retrouvent parfois dans un état de fatigue qui se prolonge. Dans ces cas-là, on dit... On est dans le coltard.
Je ne vois pas du tout à quoi vous faites référence. Quand on dîne avec Olivier, on est en pleine forme après, généralement. Mais d'où vient donc ce fameux coltard ?
Eh bien, ça vient de l'anglais « coal ». Coal, c'est le charbon et tar, c'est le goudron. C'est donc un goudron dérivé de houille. Ne cherchez pas de contrepétrie. Hein. Et cette matière, à l'inverse du bitume, est un dérivé du pétrole. Oui, je ne m'en vante pas souvent, mais j'ai quelques connaissances en matière de grosses œuvres et de travaux. Inutile de préciser que si vous êtes plongé dans le coltar, ce liquide visqueux, eh bien vous avez du mal à vous mouvoir. Et que si vous êtes un ouvrier de la fin du 19e siècle et que vous manipulez ce produit dans un endroit mal ventilé, vous êtes rapidement hagard à cause des émanations toxiques. L'expression vient donc de là. On a respiré ce goudron, on est hébété. Aujourd'hui, on utilise cette formule plutôt après une soirée très arrosée ou très fatigante, ou les deux, on dit même avoir la tête dans le coltar. Notez
dit pire, hein, mais bon, oui. On peut, ça, chez les Bernes, on dit ça, oui. J'ai la tête dans le coltar.
Chez les Mathieu, on dit la tête dans le cul. Oui. Alors, notez que pour ceux qui chassent à tout prix des anglicismes, si vous ne voulez pas utiliser coltar, vous pouvez dire en bon français être dans le goudron de houille. Mais pas sûr que ça fasse le même effet, ni que vous ayez le même succès. En Argentine, aujourd'hui, on dit estar en las nubes, comprenez être dans les nuages. En Espagne, estar pachucho, être patraque, alors qu'en anglais, c'est to be out to lunch. En gros, on n'est pas là, on est parti déjeuner. Voilà, si vous êtes dans le coltard d'avoir trop bu, n'oubliez pas ce joli mot de l'écrivaine québécoise Michèle Baillot. Certaines soifs sont préférables à toutes les ivresses.
C'est beau, Stéphane.
Mais vous ne nous avez pas dit comment ça s'écrit ?
C-O-A-L-T-A-R. Coltar.
Écoutez.
Goudron de houille.
J'apprends toujours avec vous, Stéphane, mais particulièrement aujourd'hui. Olfactivement vôtre se termine, les amis. Un numéro consacré aujourd'hui à ces personnages de l'histoire qui s'étaient mis au parfum. Alors, Stéphane, vous qui vous apprêtez à faire une entrée fracassante dans l'univers du luxe avec votre parfum effluve de Berne, quel regard portez-vous sur vos illustres prédécesseurs ? Entre Jean-Louis Fargeon, Jacques Guerlain ou Alain Delon, lequel vous avez le plus inspiré, finalement ?
Jean-Louis Fargeon. Et puis, grâce à Elisabeth de Feydeau, j'ai appris que je portais le parfum Oriza le Grand, l'eau de Corse, ce sont les héritiers de Jean-Louis Fargeon, le parfumeur de la reine Marie-Antoinette.
Les amis, ce qui sent bon, c'est notre programme de demain, je crois.
Oui, ça sent bon. Demain, on réunit trois personnages dont la tour Eiffel a changé la vie. Gustave Eiffel, celui qui l'a construite. Franz Reichelt, qui s'est élancé depuis la tour Eiffel pour tester un costume parachute qu'il avait lui-même confectionné. Un saut qui a changé sa vie dans la mesure où ça l'a stoppé net. Hein.
Et mon personnage aussi a fait le grand saut. Stéphane, je vous raconterai une belle histoire d'amour entre une certaine Erika et la tour Eiffel. Une Américaine qui a épousé la tour Eiffel. Elle s'appelle donc Erika Eiffel, désormais.
Oh, j'ai hâte que vous nous racontiez la nuit de noces.
Oh, soyez pas
ça
sale,
a dû faire mal.
Belle histoire. Vous avez dit tout à l'heure, avec modération, quand on parlait du morgon. Il faut faire ce qu'on dit, Stéphane.
Peut-être le viandox.
Oui, je ne sais pas. Il avait mis du morgon dans son viandox, ça a mal tourné.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.